Bonsoir les informés de France Info, 7 jours sur 7 à la radio, sur France Info, à la télévision, sur le canal 27 de la TNT, sur les réseaux sociaux, sur franceinfo.fr, vous le savez, avec le live, avec les reportages, avec des articles de fond pour débattre de l'actualité. Ce soir, je suis heureux de retrouver autour de cette table dans ce studio François Hernenwein. Bonsoir.
Bonsoir.
Notre partenaire du quotidien La Croix, Denis Siffer. Bonsoir Denis.
Bonsoir.
Directeur de l'hebdomadaire Politis d'Aïko Du. Bonsoir Laïc.
Bonsoir à tous.
Éditorialiste politique sur France Info Télé, canal oui, 27 de la TNT, on le rappellera jamais assez. Deuxième anniversaire hein, de cette belle association de médias global. Voilà. Et Judith Vintrop. Bonsoir Judith. Bonsoir. Journaliste politique au Figaro Magazine. Alors au sommaire de ces informés du week-end, la rentrée des classes c'est demain, sans téléphone, mais avec des évaluations d'élèves, de classes, d'établissements scolaires. On parlera de ces nouveautés, mais en sont-elles vraiment, on a connu des rentrées plus difficiles. La révolution du prélèvement de l'impôt à la source, est-on enfin à la veille du grand soir ou à la veille d'une grande reculade? Eh bien le président de la République doit trancher cette semaine après une série de tests qui ont permis de détecter un certain nombre d'erreurs. Et puis on parlera du remaniement ministériel qui se fait attendre. Nicolas Hulot n'est toujours pas remplacé et d'ailleurs sera-t-il le seul à quitter l'aventure? Quels ministres bénéficieront d'un totem de survie? Alors cette fois, c'est bien fini, les vacances à Carnac, à Biarritz, à Ajaccio sont bien derrière nous. On est revenu bronzé, en pleine forme. Demain, c'est la rentrée des classes pour 12 400 000 écoliers, collégiens, lycéens. Mais avant d'évoquer le sujet purement politique de cette rentrée scolaire, j'aimerais vous entendre rapidement autour de cette table évoquer un souvenir d'école, un souvenir de rentrée scolaire, un souvenir de prof, d'enseignant qui vous a plu ou martyrisé. Tiens, Judith Vintrop, tiens.
Bon, alors moi c'était ma...
Ou si vous voulez passer votre tour.
Non, c'était ma hantise et en même temps je l'aimais bien. J'étais dans une section scientifique où je n'avais absolument rien à faire parce que j'étais en banlieue dans un lycée où la section littéraire était celle où on allait parce qu'on ne pouvait pas faire science. Donc évidemment il n'était pas question que j'aille en littéraire. Et ma hantise donc c'était ce prof de physique-chimie.
Pas de nom.
Qui avait l'habitude de nous faire copier pendant une heure et ensuite de nous expliquer. Et pour faire la transition, il nous a dit pendant 3 ans, puis une seconde, première terminale, levez vos groins laiteux. Donc si vous voulez, ça m'a traumatisée à vie et je ne suis jamais devenue bonne.
Bon, alors, Denis Siffer, un souvenir d'école positif ou négatif?
Je vais vous remonter le moral parce que c'est un souvenir très positif. Positif, il ne l'a pas été sur le coup. C'est une rencontre avec un instituteur en CE1 et qui est parti à la guerre d'Algérie au bout de quelques semaines et qui nous a envoyé de très belles lettres depuis les Aurès. Et figurez-vous que je l'ai retrouvé 30 ans plus tard, grâce à Politis, dont il est lecteur, et de temps en temps, il m'envoie des lettres pour m'engueuler sur un édito, etc. Et je suis toujours en relation avec lui. Voilà, c'est une
François Hernenwein, souvenir d'école, de rentrée, de prof, de matière
Moi, ce qui m'a marqué vraiment et qui a eu des effets sur mon développement personnel pendant des années, ça a été mon premier cours de philo. C'était un prof formidable, très original, un pédagogue né. C'était vraiment un grand moment. Et en plus, j'ai découvert plus tard, parce que je l'ai côtoyé ensuite, c'était un pianiste merveilleux. Enfin, c'était quelqu'un de très riche et de très intéressant.
D'ailleurs, oui, un souvenir de rentrée d'école.
Oui, moi, ça remonte à l'année dernière. Alors, c'est pas moi, mais non.
Ah, vous avez fait la rentrée?
Oui, c'est ma fille, mais c'était sa première rentrée scolaire en maternelle. Elle avait 3 ans et ça m'a replongé dans mes propres souvenirs scolaires où on a l'impression de revivre une deuxième fois des choses que j'avais oubliées. Donc voilà, donc je revis une nouvelle scolarité. Donc ça reste encore marquant.
Allez, on va parler de l'actualité politique de cette rentrée scolaire placée sous le signe du numérique. Davantage d'enseignements sur les tablettes, sur Internet, avec le contrôle des enseignants, des professeurs, mais pas de téléphone portable dans les petites classes ou encore au collège. Pas de téléphone portable dans les cours de récréation. Il y a la loi et son application expliquée ce matin sur l'antenne d'Europe 1 et de CNews. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement.
Il faut aussi faire un peu confiance à l'intelligence des directeurs d'établissement. Si vous pensez que tout se décide de manière uniforme, de la même manière pour tout le monde depuis Paris, ça n'est pas notre conception de l'exercice du pouvoir. Nous, on fait aussi confiance aux équipes éducatives, aux directeurs d'établissement. C'est simplement du bon sens.
Daïk Odoui, que penser de ce en même temps? En même temps, il y a une loi qui dit pas de téléphone, mais en même temps, on laisse aussi une certaine souplesse au directeur d'établissement.
C'est réaliste, tout simplement. On se doute bien, on souhaite bon courage si on devait traquer chaque adolescent qui est dans le collège, qui dans un recoin de l'établissement serait en train de pianoter sur son portable. C'est évident, très dur. Simplement, on change la logique. Avant, il fallait marquer dans le règlement intérieur que les portables étaient interdits. Là, c'est l'inverse. La loi dit qu'ils sont interdits et dans le règlement intérieur des établissements, on marquera qu'ils sont autorisés dans certains endroits ou en fonction de certaines dispositions ou certains outils, soit pédagogiques, soit en camp d'urgence dans certains lieux. Donc voilà, ça donne plus de facilité aux enseignants et à ceux qui surveillent les cours de récréation pour imposer aux adolescents de ne pas regarder leur portable. Mais évidemment, on imagine bien qu'en classe, en tout cas, tous les adolescents ne regardaient pas leur portable pendant les cours. Les adultes intervenaient déjà.
Denis Siffert, Politis, sans téléphone portable, on consacre davantage son attention aux enseignements, mais aussi aux copains de classe dans la cour de récréation. Le téléphone nous coupe un peu des relations humaines.
Je pense qu'au contraire, le téléphone nous coupe des relations humaines.
Quand on est un ado et qu'on passe son temps.
Je pense que c'est un peu sibyllin tout ça. Je pense que le gouvernement Blanquer joue un peu la mouche du coche parce que je suis allé plusieurs fois dans des classes comme on l'a fait souvent les uns et les autres pour la semaine d'après à l'école et les profs interdisent évidemment les téléphones portables dans les cours et ça me semble une chose qui est déjà largement entérinée.
Judith Vintraube, Le Figaro Magazine, dans la cour de récréation, c'est important qu'il n'y ait pas de téléphone, qu'on continue à se parler, à jouer au ballon ou à d'autres choses.
Oui, mais c'est pas l'aspect qui me paraît essentiel dans cette histoire. L'aspect essentiel, c'est que les profs, quelle que soit la décision qu'ils aient prise, aient le sentiment et soient soutenus par leur hiérarchie. Et leur hiérarchie, ça va du directeur d'établissement au ministre, en passant par le recteur d'académie. Parce que ce dont on s'aperçoit dans les problèmes de discipline, et pas seulement pour les perturbateurs armés de téléphone, c'est que quand le prof veut sévir, il a souvent en face de lui des parents qui sont pas du tout contents et qui en rajoutent sur le gosse qui est déjà mal éduqué et une hiérarchie qui est aux abonnés absents. Donc c'est ça qu'il faut changer.
On va continuer à parler de cette rentrée des classes avec ou sans téléphone et aussi des autres sujets de cette rentrée des classes avec vous. Je vous ai pas oublié, François Hernenwein du quotidien La Croix. Avant cela, à 20h10, on fait un tour de l'essentiel de l'info avec vous, Mélodie Pépin.
Daniel Cohn-Bendit n'ira pas au gouvernement. Il ne succédera pas à Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique. L'ancien eurodéputé l'annonce lui-même. C'est une fausse bonne idée, dit-il. Décision prise avec Emmanuel Macron après une longue discussion. Les paris restent ouverts. Le remaniement doit être dévoilé d'ici mardi. L'exécutif en plein doute sur la réforme de l'impôt à la source, mais la Direction générale des finances publiques veut rassurer concernant les bugs évoqués dans la presse aujourd'hui. Impossible qu'il y ait un double prélèvement des contribuables. Les anomalies sont identifiées et résolues, assure le ministère des Comptes publics de son côté. Deux policiers suspendus en Allemagne pour avoir fait le salut hitlérien en Bavière. Les deux policiers auraient tenu des propos hostiles aux migrants avant de lever le bras dans une brasserie, indique la police. La classe politique allemande réclame des mesures face à la montée des hostilités envers les migrants. Le mea culpa de Kylian Mbappé, le champion du monde de football, s'excuse sur Twitter auprès de ses supporters pour son geste hier soir sur la pelouse de Nîmes. L'attaquant parisien a voulu en découdre avec un adversaire après un tacle, ce qui lui a valu un carton rouge. Et puis côté terrain, aujourd'hui la victoire de Rennes face à Bordeaux 2-0. Saint-Etienne concède le nul face à Amiens 0-0 en attendant la dernière rencontre de cette quatrième journée de Ligue 1 à 21h. Monaco reçoit Marseille.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Les informés de France Info, 7 jours sur 7. On continue à parler de cette rentrée scolaire. On vous a pas entendu, François Hernenwein, sur ce téléphone portable. Est-ce que ça vaut le coup qu'on en parle ou on passe à un autre sujet de la rentrée scolaire?
On peut dire simplement qu'il y a dans cette rentrée une économie générale très positive. Moi, je pense que c'est une très bonne décision d'avoir interdit le portable au collège, comme c'est de très bonnes décisions d'avoir prévu le dédoublement des classes.
Le retour de la dictée,
etc. Toutes ces choses-là sont très utiles, et les tests d'évaluation qui sont programmés dans certains CP, certains CE1, en sixième, en seconde, me paraissent effectivement des avancées.
Test d'évaluation des élèves, des enfants, bien sûr, mais aussi des enseignants, des classes, des établissements scolaires, c'est ce qui est en vue.
Mais l'évaluation fait partie des normes de la gestion aujourd'hui. Je vois pas pourquoi il y aurait des pans entiers. Vous donniez tout à l'heure des chiffres, 12 millions d'élèves, 900 000 enseignants. C'est du lourd, donc.
Mais
dans ce secteur-là,
ils ont leur liberté, ils aiment peut-être pas qu'on les note.
Mais pourquoi ils échapperaient à l'évaluation
Surtout alors que les performances des enfants français en français, en lecture, en compréhension d'un texte et en mathématiques sont mauvaises et de pire en pire. Donc, il faut quand même l'évaluation me paraît être le premier instrument. Déjà, et comme François disait, elle va être répartie, cette évaluation, il va y en avoir en CP, et puis plus tard. Et c'est très bien de voir à quel moment ça coince, à quel moment ça décroche.
Mais on verra aussi quel enseignant n'arrive peut-être pas à faire progresser sa classe.
Quel enseignant et quel établissement. Parce que le risque, c'est ça.
Denis Siffert.
Effectivement, en l'absolu, on ne peut pas être contre une évaluation, mais la qualité justement de lecture, etc., est déjà très inégale selon les départements, selon les lieux, et on risque en effet d'arriver quand même à une discrimination sociale, en fait, avec des départements, des écoles qui auront des performances moindres que les autres, et les enseignants risquent d'être sanctionnés pour ça.
Cette évaluation a lieu en début d'école, donc on évalue avant tout le niveau de l'élève, c'est ce que veut rassurer Jean-Michel Blanquer en disant que ça faut pas que ça donne un stress à l'élève, c'est pas un examen, c'est une évaluation, et ça permet de situer l'élève individuellement, et là où il doit progresser, et par exemple, pour la sixième, c'est 2 heures d'évaluation, 1 heure en français où on teste l'oral et l'écrit, et 1 heure de mathématiques où on teste à la fois le calcul mental et la géométrie. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on soit obligé de formaliser cette évaluation, puisque moi j'avais cru, quand j'étais élève, qu'en début de chaque année, les profs nous évaluaient tout simplement pour savoir était notre niveau, par les devoirs écrits, puis par notre comportement en classe. Donc il y a quand même cette notion qu'on ritualise quelque chose, et surtout on met quelque part, peut-être pas une note, mais quelque chose qui va rester dans un dossier quelque part. Est-ce que ce dossier va être que pour les parents d'élèves ou est-ce qu'il va continuer à vivre sa vie autrement?
L'intérêt que je vois à la chose, c'est qu'on peut plus mettre la tête dans le sable. Si c'est systématique, on aura à un moment donné l'état,
géographie,
le niveau de performance des élèves, et ça me paraît très intéressant pour les enseignants, puisque quand vous êtes devant un public d'élèves, si vous enseignez, vous posez la question de où ils en sont, pour savoir vers où vous pouvez les amener. Et ça me paraît d'une grande sagesse.
Alors, comme vous êtes tous d'accord autour de cette table sur ce sujet-là, sur celui-là, mais on peut participer à un débat. Dans le journal du dimanche.
J'ai noté un désaccord.
Je pense aussi que j'ai employé la formule mouche du coche. Je pense que c'est aussi un peu jouer la mouche du coche. Parce qu'en effet, moi, j'ai des souvenirs, on en parlait tout à l'heure, d'évaluation que les profs faisaient sans avoir besoin d'un ministre derrière pour organiser ça.
Bon, il y avait des profs qui faisaient des évaluations aussi parce qu'ils n'avaient pas envie de travailler. J'en ai connu, mais je disais tout à l'heure,
l'avantage, c'est de systématiser. Effectivement, certains le faisaient, mais d'autres ne le faisaient pas. Bon. Maintenant, on aura un outil utile.
Je reviens, je voyais dans le journal du dimanche une enquête très intéressante sur les écoles de la réussite. Il y a des tests qui sont menés, comme au Québec, un programme de soutien au comportement étant actuellement expérimenté. Une approche des enseignants préventive, incitative et non pas punitive. Est-ce que vous avez le souvenir également de punitions d'enseignants qui cherchent systématiquement...
Je voulais que je continue avec mon prof sur lever vos groinlettes parce qu'il envoyait des règles en fer à la figure des garçons.
C'était des règles en bois. Hein.
Ça, c'est un vrai problème, en effet. C'est, on voit, par exemple...
Inciter et
moi,
pas
j'ai
punir.
Un fils qui enseigne aux États-Unis, par exemple, et il me dit qu'on positive au maximum. Et on punit pas, on positive. On se saisit de ce qui est positif pour valoriser l'élève. En France, on a encore un peu la culture inverse et ça, effectivement, c'est assez fâcheux.
Jean-Michel Blanquer, qui va s'attaquer au cours de cette année scolaire, à réformer, il le dit, la formation des enseignants. Et puis, il y a une possibilité également de primes au mérite. Est-ce que ce sont des bons chantiers? Judith Vintraube,
Le
Figaro Magazine.
Oui, parce que dans le système scolaire français, on a une spécificité. Les profs sont mal payés. plus mal payés qu'à peu près partout en Europe. Donc, c'est absolument pas normal. Et il ne faut pas s'étonner que dans ces conditions, on ait du mal à en recruter et à en recruter de bons. Donc, moi, je suis tout à fait pour une différenciation mais en plus.
Comment on établit le mérite d'un professeur
Un prof qui s'en fout, on en a tous connu, je crois.
Oui, mais un prof qui éduque dans des lycées ou des collèges favorisés, qui ont des bons résultats au bac par rapport à quelqu'un qui est en ZEP. Est-ce que...
Mais je connais des profs en ZEP qui sont super motivés.
Ce qui est en cause, c'est pas la performance scolaire, c'est l'investissement du prof.
Oui, mais comment on le mesure, ça?
Il y a des inspections, on peut avoir une idée du travail de n'importe quelle personne dans n'importe quelle entreprise.
Il y a un moment où il faut bien tester dans quelle mesure il prend des élèves et il leur fait progresser de niveau. Donc il y a bien une évaluation entre les élèves qu'il trouve à un point A, on va dire en début d'année, et un point B qui est en fin d'année. Donc quelque part, on va aussi tester les élèves pour voir comment ils ont progressé. Et est-ce que le mérite, c'est un prof qui a des enfants en difficulté qui les amène de 6 à 8, ou c'est le mérite, quelqu'un qui a des élèves qui n'ont pas de difficulté et qui les amène de 14 à 16?
Denis Siffert, politiste.
On a quand même un petit peu là un exemple de la Macronie générale, si j'ose dire.
De
la culture managériale. C'est-à-dire qu'on introduit dans l'école cette culture de l'évaluation qui est propre plutôt à l'entreprise en général. Et c'est un peu inquiétant, je trouve. C'est un peu inquiétant.
Mais je trouve que Denis, pour le plaisir de la conversation, fait preuve d'une grande naïveté. Dans les grands établissements parisiens, le culte de la performance est déjà installé. Et les élèves qui sont simplement moyens sont écartés de ces établissements parce qu'ils n'ont pas le niveau de performance nécessaire à la compétitivité de ces grands établissements. Donc le système de la sélection et sa perversion sont déjà largement en place dans un certain nombre d'établissements parisiens. J'aurais la charité de ne pas les citer.
Peu d'établissements parisiens. On discute là sur l'élitisme de l'élitisme. Alors que la réforme vaut pour toutes les écoles.
Le ministère de l'Éducation nationale fait un classement des lycées. Il ne tient pas compte du taux de réussite au bac, mais du taux de réussite des enfants qui ont été élèves dans le même lycée depuis le début.
On referme ce débat avec vous, Julie.
Le statu quo, notre école, non seulement ne corrige pas, mais reproduit en les aggravant les inégalités sociales. Si vous trouvez que ça va bien comme ça, moi non.
Allez, on referme ce premier débat. On va en ouvrir un autre sur le prélèvement de l'impôt à la source. On va parler également du remaniement ministériel. Mais avant cela, 20h20, l'essentiel de l'info. C'est avec vous, Mélodie Pépin.
Une information, France Info d'abord, l'homme qui aurait été escroqué d'un million d'euros par les frères Bogdanov a mis fin à ses jours jeudi dernier. Les frères Bogdanov avaient été mis en examen dans cette affaire. Ce producteur de spectacle, décrit comme dépressif, avait 49 ans. Ils vont rallier Dieppe à Saint-Aubin-sur-Mer à la nage. Demain, deux responsables d'Emmaüs qui veulent alerter sur le sort des migrants. 3000 sont morts en mer l'année dernière. Un périple de 16 km pour dénoncer aussi l'absurdité des politiques migratoires en Europe. Jean-Yves Le Drian, lui, alerte sur le risque humanitaire en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères redoute une catastrophe et l'utilisation d'armes chimiques dans la province d'Idleb, dernière enclave rebelle. Le régime de Damas se prépare à l'offensive. 3 millions de personnes vivent dans cette région de l'ouest syrien. Lewis Hamilton conforte sa place de leader du championnat du monde. Le Britannique a remporté aujourd'hui le Grand Prix de Monza de F1, pourtant parti troisième sur la grille. Et puis 25 ans qu'il égrène les festivals de cinéma, Jacques Audiard pousse un coup de gueule aujourd'hui à la Mostra de Venise. Il dénonce l'absence de femmes à la tête de ces festivals et la sous-représentation féminine cette année à la Mostra. Sur 21 films, un seul est réalisé par une femme.
France Info. Les informés, Pierre Neveu.
Et dans ces informés de France Info, on parle de la rentrée d'Emmanuel Macron, rentrée délicate. Dans un instant, on va revenir sur la démission de Nicolas Hulot cette semaine. Mais dans cette rentrée délicate, il y a également les doutes du président qui se sont exprimés cette semaine sur la réforme du prélèvement de l'impôt à la source par les entreprises, par les administrations. Emmanuel Macron qui a alimenté cette discussion, cette réflexion lors de son déplacement au Danemark. Aujourd'hui, il y a le journal Le Parisien qui assure que des tests ont été menés par les services de Bercy qui ont révélé un certain nombre de dysfonctionnements. Alors, on l'a fait, cette réforme, ou on ne la fait pas? La réponse du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, invité de BFM Politique.
Le président de la République a raison d'exiger ces garanties techniques. Nous devons être sûrs que lorsque nous passons d'un prélèvement mensuel à un prélèvement à la source, il n'y a aucune difficulté technique pour les Français. Le prélèvement à la source est une bonne mesure, ça va simplifier la vie des Français. Je rappelle que pour ceux qui sont mensualisés, ça étalera désormais sur 12 mois leur prélèvement, alors qu'avec la mensualisation, c'est sur 10 mois. Donc c'est aussi un avantage de trésorerie pour les contribuables. Si, et seulement si, toutes les garanties techniques sont apportées, eh bien il faut tenir le calendrier.
Judith Vintrobe, Le Figaro Magazine, qu'est-ce que vous avez compris? On l'a fait ou on l'a fait pas?
Pas seulement à cause de Bruno Le Maire qui, au passage, a tenu à préciser que l'administration chargée de cette transformation ne dépendait pas de lui. Donc la solidarité gouvernementale a quand même ses limites. Je pense que ça c'est très mal parti. Vous citiez le scoop du Parisien qui a effectivement sorti un document...
ultra confidentiel des services de Bercy disant qu'il y avait eu un certain nombre...
confirmé au moins par la CGT. Qui dit qu'effectivement il y a plein de bugs et qui sont pas réglés. On voit plus du tout. En plus, Emmanuel Macron, en mettant le débat publiquement, alors que lui-même avait demandé d'ailleurs que l'ingénierie des réformes soit faite au sein du gouvernement, que ça fasse pas l'objet de discussions en place publique, ben c'est exactement le contraire. Mais de toute façon, tous les fondements, toutes les règles d'or du macronisme sont bafouées dans cette affaire-là et bafouées par le président de la République en premier.
François Hennewein du journal La Croix. Emmanuel Macron peut-il reporter cette réforme?
Moi, je pense qu'il peut le faire. Et...
ah oui, mais il y a un coup politique. Hein.
Évidemment, mais il y aurait un coup politique à la faire dans les conditions incertaines qui sont décrites là. Enfin, il y a un débat contradictoire aujourd'hui. Il n'y a pas véritablement de consensus sur le sens et la portée de cette réforme.
Mais moi, il renoncerait alors qu'il a toujours dit « je mène mes réformes ».
Ce n'est pas la première fois que cette réforme est reportée, oui. Je tiens à le rappeler. C'est pas Emmanuel Macron qui est à l'origine de cette réforme, c'est François Hollande qui l'avait lancée. Donc tout ça, c'est la longue histoire de réformes compliquées. Effectivement, il y a une dimension technique qui est pas facile à régler. Donc qu'il y ait des bugs, c'est bien normal. Mais je pense que la raison qui fera renoncer, c'est l'hypothèse que je fais aujourd'hui, c'est que c'est le coût politique de cette réforme. C'est là que le bât blesse. Cette réforme est sans doute utile, mais on ne la fait pas dans le contexte qui est celui du gouvernement aujourd'hui et même d'Emmanuel Macron.
Dave Codoui, France Info, Canal 27 de la TNT, je le rappelle.
Il y a aussi Muriel Pénicaud qui s'exprimait ce matin sur les ondes. Elle dit qu'il faut être sûr que tout marchera parfaitement. Donc là, c'est le côté technique et que ça soit bien compris par les Français. Là, c'est plus l'abcès psychologique. C'est notamment sur la feuille de paix, il y aura tant en moins, alors que le gouvernement veut mettre en avant, au contraire, l'augmentation du pouvoir d'achat, une fois que la suppression de la taxe d'habitation pour la plupart des gens entrera en action. Donc, évidemment, il y aura une... Et en même temps, une difficulté économique aussi à prévoir, donc ça va rencontrer de plein fouet. Et cet aspect psychologique, on le gonfle peut-être, parce qu'on quand même c'est facile de se rendre compte que voilà, on le retrouvera sur le compte en banque, hein, ce qu'on touche pas en salaire, puisque c'est ce qu'on paye d'habitude en impôt quand on est mensualisé. Donc voilà, mais paraît-il que quand même ça a des impacts.
Alors parmi les responsables politiques qui invitent le président à prendre le temps de la réflexion, il y avait à la mi-journée sur les antennes de France Info, France Inter, l'émission Questions politiques, Jean-Yves Le Drian, qui est aujourd'hui en charge des affaires étrangères, qui a été ministre de la Défense et qui nous rappelle le mauvais souvenir du logiciel Louvois aux armées.
Je serai très prudent. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme ministre de la Défense, vous j'ai Louvois. Vécu Louvois, un truc oui. épouvantable. On m'avait dit que le dispositif, le logiciel malin qui avait été inventé pour régler la solde des militaires était parfait. Pourquoi est-ce que ça, c'était une catastrophe? Parce qu'il n'avait pas été testé. Alors je comprends que le président de la République veuille qu'il y ait des tests.
Denis Siffert, Politis. Louvois, ça a coûté quelques 300 oui. millions d'euros, j'ai regardé, aux caisses de l'État, au ministère de la Défense.
Oui, c'est amusant d'entendre Jean-Yves Le Drian prononcer ces mots, parce que de façon un petit peu insidieuse, faut dire...
On rappelle qu'il était ancien ministre de la Défense.
Hein. Oui, mais il torpille un peu quand même la l'ex-future réforme, parce que c'est un très mauvais souvenir, et le comparer à Louvois, ça veut dire que ça ne passera pas. Mais ce qui est important aussi à dire, c'est qu'il y a effectivement un des problèmes politiques de fond, pas seulement des bugs, il y a ce qui a été dit sur le pouvoir d'achat, ce qu'on va voir sur la fiche de paye, mais il y a aussi une fronde un peu des entreprises et des petites entreprises. Alors je sais bien qu'il y a eu une reculade, parce que les entreprises de moins de 20 salariés, ça serait exonéré, etc., de la collecte de l'impôt, mais celles qui ont 21 salariés ou un peu plus vont être quand même même très en difficulté du point de vue de la gestion de la collecte de l'impôt.
Une complexité. On va continuer à débattre de cette actualité dans un instant. On va débattre également de ce remaniement ministériel qui se fait attendre. Ce sera sans Daniel Cohn-Bendit. Il l'a dit tout à l'heure, il ne veut pas remplacer Nicolas Hulot. Avant cela, on fait un point sur l'info, mais d'abord la météo. Restez avec nous, les informés de France Info. Deuxième partie reviennent dans 3 minutes, très précise.
France Info Trafic, avec Calipage, toute la papeterie et toutes les fournitures scolaires. Votre succès commence par Calipage.
Allez, on se dimanche soir de retour, de vacances, hélas. On fait un point circulation avec vous, Damien Triomphe, où se trouvent les difficultés en ce moment?
Alors sur l'A8, direction l'Italie, il y en a quelques-unes de difficultés. Après la sortie Nice-Saint-Isidore, c'est là qu'il y a un accident. Du coup, pour passer sur l'A8 jusqu'à Nice-Est, le temps de parcours est de 20 minutes. Sur l'A8, il reste également un ralentissement à hauteur d'Antibes, toujours direction l'Italie. Ce sont les Italiens qui rentrent chez eux. En région parisienne, classée orange aujourd'hui, hein, par Bison Futé dans le sens des retours, ça roule un peu mieux. Pour rejoindre le périph' parisien, le trafic est ralenti essentiellement au passage de Vissoux. Alors quand on arrive du sud, du péage de Saint-Arnoult, vous ne mettez plus qu'une quarantaine de minutes, ça c'est pour la 10. Et du péage de Fleury jusqu'à la Porte d'Italie, là c'est 3/4 d'heure, donc c'est pour la 6.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
Jean-Michel Gonaski, Météo France.
Demain, le ciel va prendre un aspect plus terne. Du nord de la Seine en allant vers la Bourgogne et la frontière allemande, ces nuages arrivant d'Europe centrale pourront éventuellement donner un peu de pluie en fin de journée sur les Flandres. Sur le reste du pays, l'ambiance sera nettement plus dégagée avec un soleil de plus en plus vaillant en approchant de l'océan et des régions méridionales. On notera la persistance du risque de développement d'averses ou d'orages l'après-midi sur les Alpes et la Corse et d'ondées sur l'est des Pyrénées. Au réveil, il fera 18 degrés entre Marseille, Nice et Bastia, 8 à 14 du nord au sud sur les autres régions. L'après-midi, peu de changements par rapport à aujourd'hui avec 22 près de la Manche et dans le nord-est, 24 dans la capitale et en Sologne, 26 à Tours et Rennes, 27 à 29 en général dans la moitié sud, avec un maximum de 31 degrés dans la vallée de la Garonne.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
Et le retour de l'info à 20h30, c'est avec Emmanuel Langlois.
La quête d'un nouveau ministre de la transition écologique, pardon, qui se poursuit après le retrait de Daniel Cohn-Bendit. L'ex-député européen a pris la décision de ne pas entrer au gouvernement. D'un commun accord avec Emmanuel Macron, a-t-il dit. Invité ce soir de France Info, l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, a elle esquissé le portrait robot d'un titulaire idéal de ce portefeuille.
Tout dépend de savoir ce que le président de la République va exiger du ministre qu'il va nommer. Par exemple, est-ce que dans la corbeille de mariée, il faut admettre la création de nouveaux réacteurs nucléaires? C'est un vrai sujet, parce que là, il ne s'agit pas seulement de faire, mais il s'agit de s'engager pour 60 nouvelles années. Ben, il ne va pas trouver d'écologiste pour dire oui. C'est toute la difficulté de l'exercice, c'est que politiquement, il a besoin d'une personnalité puissante, mais visiblement, il ne veut pas changer. Cet homme est d'une intelligence redoutable. Je ne comprends pas qu'il ne perçoive pas cet enjeu comme étant un enjeu absolument majeur.
C'était Corinne Lepage, l'ancienne ministre de l'Environnement, ce soir sur France Info. L'homme que les frères Bogdanov sont soupçonnés d'avoir escroqué a mis fin à ses jours jeudi dernier, c'est une information France Info. Les anciens présentateurs de Temps X sur TF1 auraient soutiré près d'1 million d'euros à cet homme d'affaires fortuné, présenté comme dépressif et vulnérable, en l'incitant à investir dans des projets cinématographiques et scientifiques. Les deux frères Bogdanov nient les faits, ils ont été mis en examen en juin dernier dans cette affaire. Ce triple homicide à l'arme blanche près de Cannes, un homme d'une trentaine d'années a poignardé son père, sa mère et sa sœur. Apparemment pour des raisons d'ordre psychiatrique, les faits se sont déroulés dans un appartement du Cannet. L'agresseur a été été arrêtés sur les lieux du drame. Au moins une centaine d'hectares de forêt ravagée par un incendie près de Cajard dans le Lot. Le feu est désormais fixé, mais une centaine de pompiers sont restés sur place toute la nuit pour combattre les foyers qui sont encore actifs. On ignore l'origine de cet incendie. À l'étranger, une vingtaine de blessés. Hier, en marge de nouvelles manifestations anti- et pro-migrants de plus de 8000 personnes. Ça s'est passé à Chemnitz en Allemagne. Les rassemblements eux-mêmes se sont déroulés sans incident. Les heurts ont éclaté au moment de la dispersion des cortèges dans la soirée. Un mot de rugby, à Agen qui s'impose difficilement face au promu Perpignan. Victoire 25-23 à l'occasion de la deuxième journée du top 14. Et puis Clermont qui surclasse le Racing 92, lui infligeant sa toute première défaite 40-17. Enfin, le tennis est premier qualifié dans ses huitièmes de finale. L'Autrichien Dominic Thiem face au Sud-Africain Kevin Anderson. Il est 20h33. Les informés, voici la suite.
Les informés, Pierre Neveu.
La deuxième partie des informés de France Info, week-end avec François Hernenwein du quotidien La Croix, avec Denis Siffer de la rédaction de l'hebdomadaire Politis, avec Daïko Doui de France Info Télé, Canal 27 de la TNT, on ne le répétera jamais assez, et puis avec Judith Vintrobe du Figaro Magazine. François Hernenwein, on parlait il y a quelques instants, on débattait autour de cette réforme espérée, attendue, et qui va peut-être se casser les dents au pied du mur de cette réforme du prélèvement de l'impôt à la source, et vous nous expliquiez toutes les difficultés à la fois techniques, technologiques, pour les entreprises, pour l'administration, et puis le coût politique.
Évidemment, le coût politique. Mais moi, ce qui me frappe dans le discours, et c'est ce qui permet de faire le pronostic qu'on a, semble-t-il, tous fait là, d'un nouveau report de la réforme, c'est que quand on va répétant « il faut être sûr », c'est qu'on est sûr de rien. Et à deux jours des annonces, ça pose quand même un certain nombre de problèmes.
Judith Vintrobe.
Ce qui est aussi frappant, je trouve, dans cette sombre affaire, c'est que on a des dégâts absolument maximum, des dégâts politiques, des dégâts de confiance, parce que Gérald Darmanin a quand même engagé sa crédibilité sur le bon déroulement de cette réforme en disant tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir du point de vue technique. Est-ce qu'il a dit la vérité ou pas? C'est une question qui se pose. Donc vraiment, déflagration maximum pour une réforme qui en fait n'est qu'une réforme de modalité, parce que le chiffre final sur la fiche de paie sera différent, mais au total, on ne paiera pas davantage d'impôts, en tout cas pas à cause de cette réforme.
Est-ce que l'on peut reporter une réforme d'un an, sachant qu'après les élections européennes de 2018, il y aura
une autre élection, toujours une autre élection, donc, et c'est toujours ce qu'on accuse les gouvernements. Voilà. Mais tout de même, ce qu'il faut faire, il faut toujours faire un an après son élection, après on ne fait plus rien, parce qu'on a la légitimité de l'élection. Pour revenir sur les bugs, on parle de 1% de bugs, mais il faut se rendre compte de l'échelle, c'est quand même 37 millions de foyers fiscaux. Donc je ne suis pas très bon en calcul, mais si vous faites 1% de 37 millions, c'est quand même pas mal de gens. Donc ça a quand même un impact. Et puis sur l'impact psychologique, il y a aussi derrière, et ça pose la question du report plus tard, c'est les gens se disent, s'il y a un problème sur ma fiche de paie, qui je vais aller voir? Je vais aller voir mon entreprise, la personne qui est responsable de ça, ou le centre d'impôt. Et donc par exemple, et même sur la confidentialité, là aussi il y a des doutes. Et là, ça va au-delà du bug, au-delà de la psychologique de la fiche de paie qu'on retrouve évidemment. Il y a cet aspect-là aussi qu'il faut traiter.
On termine ce débat avec vous, Denis Siffer, avant de parler du remaniement. Hein. C'est dans l'actualité.
Oui, pour le coup, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Gilles Weintraub. C'est que on pourrait espérer une grande réforme. C'est toujours la grande fable sur la réforme de l'impôt qui ne vient jamais. Une réforme d'impôt plus progressif, plus égalitaire.
C'est là, plus large, parce que à peine large. 43% là, des foyers le paient.
Hein. Et là, on vient buter sur quelque chose qui est finalement technique, même si ça a beaucoup d'inconvénients, le technique en l'occurrence.
Non, mais surtout, il y a un aspect fondamental. Si elle est lancée, il ne sera pas possible de revenir en arrière. Et compte tenu des risques, c'est quand même assez risqué.
Bon, vous avez vu, Jean-Luc Mélenchon a dit que la solution Eric Woerth, c'est-à-dire faire percevoir, ne pas prendre les chefs d'entreprise pour des collecteurs d'impôts, mais faire percevoir l'impôt sur les comptes bancaires tous les mois en actualisant, en faisant ça sur le revenu de l'année, était tout à fait possible. Donc Mélenchon, la droite, une fois de plus, il y a une coalition des oppositions.
Allez, on passe à l'info de la semaine, la démission surprise surprise de Nicolas Hulot, annoncée sur l'antenne de France Inter. Tous les quotidiens, tous les magazines, tiens, c'est le cas, je l'ai entre les mains, Politis, hein, Denis Siffer, vous titrez « Hulot, l'échec de la voix solitaire. Le ministre démissionnaire aura mis 15 mois à comprendre que dans ce gouvernement, il était seul à défendre l'urgence à changer de paradigme et que le rapport de force jouait contre lui. » Tout est dit.
Enfin, tout est dit non, mais beaucoup est dit, en tout cas, sans doute.
Parce que, effectivement, je tenais à souligner ce titre-là.
Le problème, c'est pas, en effet, qui va remplacer, c'est un problème politique. Pour le moment, ça nous intéresse tous, c'est notre métier. Canfin ou un autre, je ne sais pas, il y a des gens de qualité. Mais, quel qu'il soit, il se trouvera dans la même situation. C'est évident. C'est-à-dire que c'est tout un paradigme, comme on dit, c'est-à-dire une vision des choses qui n'est pas pour l'instant inscrite, disons, dans la pensée, la philosophie politique de Macron. Alors, donc, ça, c'est quelqu'un qui va aller dans le mur.
Qui, pour remplacer, on a dit que ça pouvait être Daniel Cohn-Bendit, et sur l'antenne d'LCI ce soir, il explique qu'il a rencontré le président, c'était prévu de longtemps, et le président m'a dit, si tu es ministre, tu perds ta personnalité, tu n'as plus cette liberté, est-ce que tu veux cela? On est d'accord, c'est une fausse bonne idée. Judith Vintraud,
c'est sympathique pour celui qui va être nommé, entre parenthèses.
Pour tous les ministres, est-ce que pour être ministre dans un gouvernement sous Emmanuel Macron, il faut perdre sa personnalité et sa liberté de
Genre,
parole? Ça donne envie. Avaler les couleuvres, ça va avec le poste. Non, mais au-delà de cette remarque, enfin cette façon qu'a eu Emmanuel Macron de ne pas vendre ou de dissuader, on a l'impression qu'il l'a dissuadé en fait. Daniel Cohn-Bendit, c'est assez curieux.
C'était son soutien, notamment pendant la campagne.
Non, on a peu assisté à des négociations quasiment publiques entre un pressenti ministre et un président. C'est assez rare dans l'histoire de la Ve, que ce soit à ce point-là étalé. Là aussi, une autre règle de la Macronie qui vole en éclat.
Daniel Cohn-Bendit, il doit faire attention à la manière dont il refuse ce poste, puisqu'il l'a encore dit qu'il avait envie de soutenir Emmanuel Macron, donc il n'a pas envie de ce poste, mais il faut montrer qu'ils discutent ensemble, que c'est une discussion polie, une conversation presque de dimanche soir avec un ami, et que voilà, il n'était pas convoqué pour dire oui ou non. Donc c'est ça aussi qu'on nous fait entendre avec ce témoignage de la sortie de l'Élysée. Nous avons décidé de concert que c'était une fausse bonne idée. Voilà, il ménage quand même Emmanuel Macron.
C'est le ministère de l'impossible. C'est impossible, ce ministère.
Mais c'est la question qu'a posée Nicolas Hulot en démissionnant. François, à quoi sert ce ministère? Pourquoi faire? Et cette question posée par Nicolas Hulot, elle concernera tous ceux qui sont potentiellement candidats au poste. Que peut faire un ministre de l'écologie dans ce gouvernement, avec le poids des lobbies
Il faut gérer l'énergie, les transports,
Nicolas Hulot,
avec
etc.
l'économie de marché, parce qu'en l'opposition de Nicolas Hulot, elle est systémique. Il considère qu'il n'y a pas de transition écologique possible dans le système capitaliste.
Je dirais la chose suivante. Nicolas Hulot était vraiment macrono-compatible sur la question de l'écologie. Qu'il nomme quelqu'un un peu plus idéologue que Nicolas Hulot, les choses seront encore plus compliquées sur la question de l'environnement.
On va continuer à parler de ce remaniement ministériel qui se fait attendre. En tous les cas, ce sera avant le Conseil des ministres de mercredi. Dans un instant, faut-il se consacrer seulement à un poste ou à d'autres postes de ministres? Est-ce qu'il y a des ministres qui vont perdre leur siège? Est-ce que d'autres vont conserver leur totem de survie, comme je le disais dans les titres de ces informés? On voit ça dans un instant avec vous sur ce plateau. Mais avant cela, à 20h40, l'essentiel de l'info, c'est avec vous, Mélodie Pépin.
Et justement, qui pour remplacer Nicolas Hulot? Eh bien, ce ne sera pas Daniel Cohn-Bendit, l'ancien eurodéputé écologiste met fin aux supputations. Il annonce qu'il n'ira pas, décision prise d'un commun accord avec Emmanuel Macron. Il estime que son entrée au gouvernement est une fausse bonne idée. Le gouvernement qui n'a aucun tabou sur la nouvelle réforme de l'assurance chômage, y compris au sujet de la dégressivité des allocations chômage. Voilà ce que dit la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Alors que le chantier va s'ouvrir, de son côté, le MEDEF plaide pour une remise à plat complète des règles de l'assurance chômage. À Nice, on ne se marie pas si on commet des infractions au code de la route. Le maire Christian Estrosi a décidé de reporter un mariage qui devait être célébré aujourd'hui. Après de multiples infractions, du cortège des mariés, rodéo de roues, route bloquée, outrage à agent. Les noces doivent être célébrées normalement lundi. Demain, première grève en Grèce depuis que le pays a retrouvé son autonomie financière. Aucune liaison maritime ne sera assurée avec les îles. La puissance l'autre fédération des marins, réclame 5% de hausse des salaires pour compenser le gel imposé pendant la crise. Et puis en Israël, la radio publique a dû s'excuser après avoir diffusé du Wagner. Le compositeur allemand n'est pas interdit dans le pays, mais boycotté pour ses propos antisémites. Célèbre aussi pour avoir été l'un des compositeurs favoris d'Hitler.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Ah, et dans ces informés de France Info, on continue à débattre de l'actualité politique. Ce remaniement qui se fait attendre, j'ai une question très simple à vous poser autour de cette table. À vous quatre, la démission de Nicolas Hulot pose la question du remaniement. Doit-il être limité à un seul poste, à une seule personne, ou élargi à d'autres ministères? Tiens, Daï Kodoui.
J'ai envie de vous dire, ça dépend de à quel moment a lieu l'annonce du remaniement, à quel moment a lieu l'annonce du report du prélèvement à la source. Parce que dans ce cas-là, Darmanin, qui a soutenu ce prélèvement à la source, moi, si j'étais lui, j'aurais pas envie de rester. Non, c'est une plaisanterie, mais ça ne sera pas un grand remaniement, de toute façon. Ce qu'on appelle remaniement, s'il y aura peut-être deux autres postes, on pense évidemment à la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui ne convainc pas. Et à Jacques Mézard, le ministre de la cohésion sociale, territoriale, qui lui aussi, cohésion des territoires, qui lui aussi ne convainc pas forcément. C'est les deux postes qui sont les plus fragilisés, qui permettraient de dire, en plus de quelqu'un de nouveau à l'écologie, que voilà, qu'on évoluerait un petit peu. Mais voilà, c'est quand même un remaniement qui sera, à mon avis, à minima, même si on parle de Nyssen. Pour moi, je considère que c'est un reportement à minima parce que ce n'était pas un poids lourd politique, même si la culture est quelque chose d'important.
François Nenvein, du quotidien La Croix. Plusieurs...
Sans doute à minima, je suis d'accord avec ces hypothèses, sauf qu'il y a une question politique qui est posée à Emmanuel Macron. La situation du président de la République et du gouvernement, dans l'opinion, n'est pas formidable. Donc, il pourrait y avoir une habileté à rebattre les cartes et à faire un remaniement de plus grande ampleur. Enfin, j'ai pas à le conseiller, mais l'hypothèse que je ferais à sa place, c'est de profiter du remaniement pour corriger un peu le tir sur un certain nombre de sujets. Et là, enfin, on va pas refaire ce qu'on a dit 100 fois aux informés. La politique du président de la République est déséquilibrée. Pas déséquilibrée en absolu, mais déséquilibrée par rapport aux promesses de campagne qui étaient les siennes. Et en même temps, de droite et de gauche. Évidemment, la politique qu'il a conduite jusqu'à présent est une politique formidablement déséquilibrée, et les Français le constatent. Donc le remaniement pourrait être, pour lui, l'occasion de changer de cap. Je ne pense pas qu'il ait l'intention de le faire. Mais dans les hypothèses qu'on fait, ça sera un remaniement à minima. C'est dommage qu'il n'y ait pas un remaniement de plus grande ampleur qui annonce une réorientation politique, à mon avis indispensable, s'il ne veut pas finir dans les sables.
Judith Vintraube, Le Figaro Magazine.
Le remaniement ne change à peu près rien, hein, sauf quand il est la marque d'un changement de cap. Or, Emmanuel Macron l'a dit sur tous les tons, il est hors de question pour lui de changer de cap. Il considère toujours, en simplifiant à l'extrême, que quand l'emploi va, tout va dans une société et que tout passera par la lutte contre le chômage. François Hollande l'avait éprouvé d'ailleurs à ses dépens. Lui, il avait fait le contraire. Il avait changé de politique en gardant dans un premier temps Jean-Marc Ayrault, ce qui fait que les Français n'avaient absolument rien compris. Et que quand Manuel Valls avait été nommé Premier ministre, c'était trop tard. L'élan de départ.
Et ça ne lui a pas franchement porté chance.
Et ça ne lui a pas réussi. Donc, changer de remanier sans changer de Premier ministre, ou changer de Premier ministre sans changer de cap, c'est un coup d'épée dans l'eau.
Denis Siffert, Politis.
Oui, on ne voit absolument pas un changement de cap se profiler. Et moi, je pense quand même que la vraie question, c'est l'écologie. C'est-à-dire qu'il est dans une impasse par rapport à l'écologie. C'est-à-dire qu'il y a eu un choc psychologique, je pense, pour la société. Il y a eu beaucoup de ministres d'écologie qui ont démissionné ou qui sont partis de gré ou de force avant Hulot. Mais la façon dont ça s'est passé, la personnalité d'Hulot, fait qu'il y a eu un choc, je crois, dans la société et peut-être une prise de conscience. Et j'ai pas l'impression que Macron soit, disons, à la hauteur de cette prise de conscience, ni qu'il en ait les moyens en réalité par rapport à ses bailleurs de fonds, par rapport aux intérêts, il faut bien le dire, économiques qu'il défend, le président des riches.
Hein. Comme vous parlez de Nicolas Hulot,
je crois qu'il va y avoir une invasion de la rue par le CAC 40.
Non, il n'y aura pas une invasion de la rue, mais je pense que ça c'est un très mauvais coup pour lui si il ne trouve pas une personnalité et ne la trouvera pas.
Il la trouvera
pour bonne raison qu'il ne veut pas changer de politique, notamment sur la question de l'écologie.
Qui est-ce qui accepterait de s'engager sans avoir un minimum de garantie et de l'attitude pour conduire une politique
en faveur...
Quelqu'un qui a envie d'être fort, on en connaît.
Mais à la limite, est-ce que prendre quelqu'un qui n'a pas de poids, c'est finalement détourner l'attention de l'écologie ? Finalement, on prend quelqu'un...
C'est sûrement s'éviter des enquiquinements pour l'avenir. Hein.
Sauf que le débat est crucial
aujourd'hui. Tout à fait, mais le débat, Emmanuel Macron va peut-être mettre plus sur l'assurance chômage, la retraite, plus sur des questions sociales pour les prochains mois. Et est-ce que finalement le remaniement attendu, il n'est pas du côté d'Emmanuel Macron ? C'est à lui de se remanier, en fait, finalement. Il n'a pas l'intention de se remanier sur l'intellectuel, sur le cap. Par contre, de remanier un petit peu son style, peut-être que là... Il y a une possibilité. Remanier, en tout cas, commence à fonctionnaliser. Ça, c'est sûr.
Ça suffira pas. Mais il est aussi facile de démontrer que les questions environnementales et questions sociales sont des questions qui marchent de concert. Et si on se saisit correctement de la question environnementale, on se saisit correctement des questions sociales.
Denis Siffer, un mot.
Bien sûr, il faudrait un grand coup, disons, sur le nucléaire, enfin, vraiment une affirmation d'un changement de cap qui n'aura pas lieu. Donc, je persiste à dire que là, il est un peu dans la nasse, hein, Macron, dans cette histoire avec la démission de Hulot.
On a deux petites minutes. Hein. Nicolas Hulot n'a pas apprécié un tour de table lundi soir à l'Élysée avec des chasseurs, un responsable du lobby de la chasse et des chasseurs qui viennent de lancer une campagne de communication. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur des affiches. On y voit des oiseaux avec ce slogan « Chasseur premier écologiste de France » avec un point d'interrogation qui a été rajouté avec en sous-titre « Les chasseurs participent bénévolement à la sauvegarde de la biodiversité de nos campagnes. Ils luttent contre les plantes invasives. » Cette com, vous la trouvez judicieuse, déplacée, Judith Vintraube. Rapidement.
Rapidement, elle ne pouvait pas plus mal tomber. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait en réponse à la démission de Nicolas Hulot.
C'est sorti cette semaine.
C'était prévu avant.
C'était une campagne de grande ampleur.
La saison de la chasse qui redémarre.
Oui, moi je pratique pas, j'aimais beaucoup les émissions de chasse de tard dans la nuit, et je sais, pour connaître des chasseurs qui, effectivement, ils aiment beaucoup la nature, alors, mais ça tombe très mal. Quoi.
Après, ils ont le droit de faire un peu de provocation, hein, Greenpeace, ils font de la provocation aussi, quelque part, et faire de la communication qui choque,
parce que
le point d'interrogation, c'est vraiment la RATP qui l'a obligé. Dans le métro, sinon sur les autres affiches ailleurs qu'à Paris, il n'y aura pas le point d'interrogation, c'est une affirmation, il y a juste une petite astérix sur l'affiche, parce qu'en fait, premier écologiste de France, c'est le résultat d'un sondage de la radio RMC.
D'accord. Alors, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le tweet de Laurence Parisot à cette campagne. Elle écrit « Jamais vu une campagne de publicité aussi foutage de gueule ». Elle a eu plein de likes, plein de retweets. Denis Siffert.
Oui, vous demandiez si c'était déplacé ou pas. Je pense que c'est très déplacé. En tout cas, c'est un bon travail de lobbyiste, mais c'est la preuve un peu de ce qu'affirme Hulot. C'est-à-dire qu'il y a là un lobby très actif, très spectaculaire, très efficace. Et malheureusement, un président de la République qui a été très faible ou très complice par rapport à ce lobby.
François Hernandez, tout compte fait, c'est une bonne campagne de communication parce qu'on en parle.
Oui, on en a fait un sujet. Moi, je voudrais simplement ajouter à ce propos-là que, évidemment, je suis d'accord avec ce que vient de dire Denis, mais je ne pense pas qu'il faille diaboliser les chasseurs dans les territoires. Ils participent à la gestion de l'espace, des forêts, etc. Et ce n'est pas du tout la caricature du gros beauf.
Du viandard comme le sketch des Inconnus.
Je pense pas qu'il faille les réduire à ça.
Bon, on va poursuivre ces informés, mais avant cela, à 20h50, l'essentiel de l'info, un tour de l'info avec vous, Mélodie Pépin.
Un homme armé d'un fusil de chasse retranché dans un camping à Trèves dans le Gard depuis 17 heures. Il a tiré plusieurs coups de feu mais aucun blessé. Tous les campeurs ont été évacués. Le forcené dit vouloir s'en prendre aux militaires. Le GIGN et les gendarmes sont sur place. L'homme que les frères Bogdanov sont soupçonnés d'avoir escroqué s'est suicidé jeudi dernier. Il avait 49 ans. Présenté comme dépressif, ce producteur de spectacle aurait été spolié d'1 million d'euros par les frères jumeaux qui ont été mis en examen dans cette affaire. Les syndicats des médecins homéopathes dénoncent une chasse aux sorcières. La faculté de Lille a décidé de suspendre son diplôme d'université d'homéopathie pour l'année qui vient. Diplôme en place depuis une trentaine d'années selon le syndicat. Mais depuis cet été, le doute s'installe sur l'efficacité de ces traitements. La faculté dit attendre la position de la Haute Autorité de Santé. Elle a osé apparaître nue dans le sanctuaire de Lourdes pendant une procession eucharistique. Une artiste franco-luxembourgeoise interpellée aujourd'hui. Elle comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Tarbes en mai pour exhibition sexuelle. Ce n'est pas sa première convocation. Déborah de Robertis s'était déjà dénudée au musée du Louvre, près de la Joconde. C'était en octobre dernier.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Alors, comme on arrive aux 6-7 dernières minutes de cette émission du week-end Les Informés, on va continuer à parler d'actualité, mais comme on a parlé des sujets forts, la rentrée scolaire, le prélèvement de l'impôt à la source, le remaniement ministériel, et j'aimerais vous entendre sur les sujets qui, pour vous, vont être incontournables cette semaine. Judith Vintraub, Figaro Magazine.
Alors, vendredi, normalement, l'intersyndicale d'Air France se réunit pour décider de recommencer ou pas à faire la grève, et là, c'est plutôt parti pour de nouvelles grèves, puisque avant le référendum perdu par le précédent PDG d'Air France, les pilotes, les hôtesses réclamaient 5% d'augmentation pour tout le monde ou à peu près, qui n'ont pas été bien sûr accordés. Et puis le nouveau patron Ben Smith n'a pas l'intention non plus, donc on va aussi connaître ces Français réfractaires à la réforme, mais réfractaires aux réformes qui les concernent, eux.
Dave Covey, France Info, canal 27 de la TNT.
Alors, je ne sais plus le jour, mais c'est en milieu de semaine, il y a le procès de Booba et Kaaris, suite à leur dispute, même un peu plus, dans l'aéroport. Donc, évidemment, ce qu'on attend de savoir, évidemment, s'ils vont être sanctionnés à la mesure de ce que le sanctionne l'opinion publique. Donc, on verra. On rappelle qu'ils ont quand même fait de la prison en préventive. Donc, voilà,
Booba a déjà
été condamné à de la prison parce qu'il avait braqué un taxi dans sa jeunesse. Et puis il y a aussi, est-ce qu'ils auront la même condamnation? Ça, c'est plus anecdotique, mais c'est aussi ce que chaque supporter de chacun attend, et de voir en fait qui a commencé. Est-ce que c'est Booba ou Kaaris? En tout cas, ça passionne la frange, je sais pas. En tout cas, sur les réseaux sociaux, si on suit les réseaux sociaux, régulièrement, ça intéresse. Donc, c'est en milieu de semaine.
François Hanenwein, La Croix, qu'est-ce que vous avez retenu pour cette semaine?
Moi, je pense, on a vu ce qui s'est passé à Chemnitz, les affrontements, là, en Allemagne. L'agenda européen d'Emmanuel Macron. Il y a des rencontres avec les dirigeants du Benelux mardi et avec Angela Merkel vendredi. L'objectif, c'est quand même de consolider cette alliance des progressistes face aux forces qui montent un peu partout en Europe. On a parlé de Viktor Orban, on voit ce qui se passe en Italie. Je pense que aujourd'hui, l'Europe, l'esprit de l'Europe, y compris historique, pas simplement la construction européenne, est miné par ces manifestations de haine. Et je pense que la responsabilité des gouvernements est aujourd'hui d'apporter des réponses à la hauteur. Ce n'est évidemment pas facile, mais je pense qu'aujourd'hui, il est important de sauver ce qui peut être sauvé de l'esprit européen, bien plus largement que simplement la construction européenne.
Denis Sifer, Politis.
Alors, je vais sortir aussi des frontières hexagonales pour parler d'une tragédie qui se profile, une de plus, en Syrie, parce que vendredi, il y a une réunion du trio Russie, Iran, Turquie, et c'est le sort de 3 millions de civils d'Idlib, qui est une ville au sud d'Alep, où se sont agglomérés tous ceux qui ont été chassés des autres villes par Assad et par...
Et Jean-Yves Le Drian craignait des recours à nouveau aux armes chimiques, il l'a dit à la mi-journée.
Et donc il y a la question des couloirs humanitaires pour permettre à ces civils d'échapper à un sort qui s'annonce tragique. Et puis sur ce qu'a dit Le Drian, justement, j'ai toujours une petite gêne, cette histoire d'armes chimiques, parce que Assad a tué des centaines de milliers de personnes avec des armes conventionnelles, et toujours l'impression, quand on parle des armes chimiques, et on a raison évidemment de condamner les armes chimiques, qu'on lui donne un blanc-seing, en somme, qu'on s'acquitte d'une sorte de, on solde les comptes pour des morts civiles qui ont été majoritairement et massivement massacrés par des bombardements de bombes tout à fait conventionnelles.
C'était intéressant de vous laisser cette carte blanche. Comme on arrive à la fin de l'émission, il nous reste encore 2-3 petites minutes, on va reprendre la tradition de l'année dernière. La une de votre quotidien La Croix demain, François Hanenwein.
La rentrée scolaire avec la dictée qui fait sa rentrée, puisque Jean-Michel Blanquer préconise des dictées quotidiennes dans le primaire.
Denis Siffer.
Eh bien, c'est tout aussi évidemment, Politis. Mais c'est Hulot. Hulot tout seul. Et effectivement, ça pose le problème que nous avons largement évoqué ici, de sa succession et du nouveau paradigme qui serait nécessaire, mais qui ne viendra pas.
Judith Vintraube, Le Figaro Magazine. Alors, il est déjà sorti en kiosque, mais on peut toujours se le procurer oui. en papier et sur le net aussi. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Et la une reste vraie, ça se complique pour Emmanuel Macron, même si depuis notre bouclage, des épisodes se sont encore ajoutés. Je pense à Stéphane Bern, notamment, aux ennuis d'Emmanuel Macron.
Bon, Daï Codouy, demain.
Il y a l'actualité, évidemment. On peut quand même rappeler France un nouveau Info, rendez-vous télé, oui. sur France Info qui est commun à la télé et à la radio. C'est l'interview politique à 19h20.
Voilà, avec
Bertolus et Bernstein.
Voilà, puisque on donne les rendez-vous 8h30 demain, le rendez-vous de France Info, radio et télé, on reprend les bonnes habitudes, c'est avec Marc Fauvel et Renaud Lédélis cette saison. L'invité demain matin 8h30, ce sera le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Il sera question bien sûr du prélèvement de l'impôt à la source par les entreprises. Merci à nos informés ce soir, Judith Vintraube, Le Figaro Magazine, Daï Codouy, France Info, Canal 27 de la TNT, Denis Siffert de Politis. Merci également à François Nenwein du quotidien La Croix. À la réalisation ce soir, Thomas Eliès, à l'édition Louis Mondeau. Demain 20h, 21h, les informés de France Info reviennent, pilotés demain de maître par Jean-François Aquili.